le 11e forum FNAIM UNIS Grand Paris le 21 mars 2024 au Cézé, en partenariat avec Drieux Combaluzier et Axéo sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo en direct du Cézé, du Conseil économique, social et environnemental dans le 16e arrondissement pour ce 11e forum de l'immobilier organisé par la FNAIM Grand Paris et l'UNIS Grand Paris. Alors, la première table ronde vient de se terminer et justement, nous allons débriefer ensemble. Et pour ce faire, j'accueille Benjamin Darmouni. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes président délégué de l'UNIS du Grand Paris et président de la commission gestion locative également. Rémi Ferraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur de Paris et membre de la commission des finances, également conseiller de Paris. Édouard Grimont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire, porte-parole du Conseil supérieur du notariat et membre du bureau en charge de l'immobilier et du logement. Et enfin Pierre Autus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc DG délégué général de Pluriance et contributeur du groupe de travail sur le statut fiscal de l'investisseur du CNH, donc le Conseil national de l'habitat présidé par Lionel Causse. Alors bon, le thème de la table ronde, c'était justement sur la fiscalité de l'investisseur et puis sur les réformes de la fiscalité des locations meublées de courte durée. Alors, monsieur le sénateur, c'est vous qui avez ouvert cette table ronde en expliquant un petit peu... On va dire, pas les couacs, mais le rétropédalage à nouveau du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, rappeler à nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu une avancée sur la suppression de la niche fiscale Airbnb. Et puis, il y a eu ce fameux rétropédalage. Alors, on ne sait pas trop où on en est. C'est vrai que nos auditeurs ne comprennent pas bien non plus.
Oui, parce qu'enfin, il y a eu une avancée de la part des parlementaires sur la suppression de la niche fiscale pour les locations de courte durée cet automne,
oui.
Dans un vote au Sénat, puisque l'Assemblée nationale ne vote pas avec le 49-3, oui. Mais ça a été voté au Sénat de manière très large, droite et gauche.
Donc tous les partis ont voté pour la suppression de cette niche fiscale globalement.
Presque tous, avec un avis négatif du gouvernement. Mais un avis quasi unanime des parlementaires, tant la tension sur le logement et l'importance des meublés touristiques dans cette tension est importante. Donc ça a été voté. Nous attendions à ce que ça ne soit pas gardé, soit au débat à l'Assemblée, soit avec le 49-3. Et finalement, petit miracle, cette niche fiscale a bien été supprimée lorsque le 49-3, qui est un décret signé du Premier ministre, a été publié. Un peu plus tard, le gouvernement a dit que c'était une erreur de sa part. Certes, une erreur, mais c'est dans la loi promulguée par le président de la République.
Le gouvernement est revenu dessus après le 49-3.
Il est revenu dans son intention en disant « nous le supprimerons plus tard par une nouvelle proposition de loi budgétaire ». Mais en attendant, c'est dans la loi française. Et c'est la loi de finances qui a été votée. Et puis là, les instructions données aux contribuables ne reprennent pas la suppression de cette niche fiscale, elle la maintient. Préjugeant d'un nouveau changement de la loi dans le cours de l'année. Donc, nous sommes un certain nombre de parlementaires, mais je sais qu'il y a aussi des organisations professionnelles, notamment hôtelières, qui ont fait des recours au Conseil d'État.
Vous avez saisi le Conseil d'État.
Pour demander l'annulation de cette instruction fiscale et que les instructions fiscales soient conformes à la loi de finances votée et promulguée.
Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi le gouvernement est réticent à la suppression de cette niche fiscale, puisque vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, en fait, ces locations, ça perturbe totalement le marché de la location. Les maires le disent, c'est les premiers à le dire, d'ailleurs, sur le terrain. Les parlementaires le disent, on le reconnaît, les professionnels le disent. Pourquoi le gouvernement ne le reconnaît pas ?
C'est à la fois incroyable. Et puis peut-être même les services de Bercy peut-être même le disent, puisque c'est 300 millions de recettes fiscales en moins à un moment où on est dans une situation budgétaire très difficile.
Parce que Le Maire il a dit qu'il n'y a plus d'argent.
Voilà. Mais il a annulé une recette. Ouais. D'ailleurs, quand je l'ai interpellé sur le sujet à la commission des finances du Sénat, était un peu en difficulté pour répondre. Il disait, mais en fait, on va le faire, mais dans le cadre de la loi Le Maire et Chanise plus tard dans l'année.
Et pourquoi, en fait ?
Alors, la raison invoquée par le gouvernement, c'est de vouloir avoir un dispositif global, niche fiscale, le DPE, les réglementations par les communes améliorées. Mais je crois que la réalité, puisqu'il faut toujours attendre, toujours gagner du temps et en fait en perdre, c'est l'efficacité, l'intensité du lobbying des plateformes, en l'occurrence essentiellement de Airbnb, qui a une influence politique qui est tout à fait déraisonnable dans notre pays.
Dû au tourisme ?
Dû à des liens très forts et une capacité de lobbying aussi extrêmement forte sur le gouvernement, sur le président de la République aussi, disons-le clairement.
D'accord.
Et
mais c'est bien de le dire clairement.
Pour en arriver à donner une instruction fiscale contraire à la loi de finances, c'est quand même assez inédit. Ouais, c'est d'ailleurs parce que c'est inédit que nous avons fait un recours en annulation au Conseil d'État.
D'ailleurs, je précise, c'est vrai qu'on le dit, on le rappelle souvent, mais justement, ces locations saisonnières ne sont pas soumises au calendrier fixé par la loi climat résilience, avec ces interdictions de louer en fonction du DPE et des mauvaises notes. Ça commence dès 2025 avec les G. Ça a commencé avec les pires G.
Ce qui risque de transformer des passoires thermiques, des logements passoires thermiques en locations classiques de logements, les faire basculer vers... de la location courte durée plutôt que d'engager des dispositifs de rénovation énergétique. Donc s'il y a des niches fiscales, il y en a. Il faut évidemment les orienter vers le soutien à la transition énergétique et pas du tout vers les locations courte durée qui aujourd'hui ne contribuent plus à l'attractivité touristique du pays mais privent les Français de leur logement.
Alors justement, les niches fiscales, elles sont demandées mais dans un autre contexte, celle du bailleur privé. Peut-être une petite réaction, messieurs, Benjamin Darmoni.
Non, évidemment que c'est demandé, évidemment que cette situation est désolante. On doit réagir. Pourquoi le gouvernement, pourquoi le président de la République laisse encore des passe-droits? On sait pourquoi on a autant besoin d'argent dans une période qui va être extrêmement difficile. La crise du marché des professionnels en transaction est catastrophique. Au niveau des promoteurs, on n'en parle même pas. Et aujourd'hui, on laisse encore des passe-droits. Je n'arrive pas à comprendre l'objet, en fait. Alors oui, les professionnels demandent depuis des années un statut fiscal pour le bailleur privé. On attend quoi? On attend juste qu'on connaisse les règles du jeu au début et à la fin. Le problème de l'immobilier aujourd'hui, c'est que tous les ans, ça change. Et on ne sait pas, un particulier qui souhaiterait investir dans un bien, il ne sait pas si l'année prochaine, il sera traité fiscalement de la même manière. Donc, on est clairement demandeur pour pouvoir travailler dans l'immobilier sur le long terme. On ne demande pas l'impossible.
Maître Grimond, peut-être une petite réaction, justement.
Je partage totalement ce qui vient d'être dit. Effectivement, les Français, on constate dans nos études, c'est ce que je disais tout à l'heure de la table ronde, ont besoin déjà de confiance. Et la confiance, c'est de savoir que le système qu'on va adopter, le système fiscal, sera stable.
Et quand vous dites les Français, c'est les propriétaires, mais pas que.
Les propriétaires, alors les Français, les locataires ont besoin d'avoir confiance en leurs propriétaires bailleurs, mais les propriétaires bailleurs pour investir, parce qu'on a besoin des propriétaires privés aussi dans le parc immobilier français. Il ne peut pas y avoir que les collectivités, les sociétés publiques ou des institutionnels qui soient propriétaires des logements. Les Français sont attachés à la pierre et investissent, j'ai envie de dire heureusement, et heureusement pour nous tous d'ailleurs, mais ils ont besoin de savoir que le système qu'ils vont adopter à un instant donné ne dépassera bien largement l'année qui suit ou la deuxième, et que ça sera un dispositif pérenne qui va leur permettre d'apprécier les conséquences économiques, les conséquences fiscales de l'achat qu'ils font. Pour beaucoup de gens, c'est l'achat d'une vie parfois, ou d'une fin de vie pour compléter une retraite. C'est pas une baguette de pain qu'on va acheter tous les matins au coin de la rue.
Et justement, alors vous qui êtes notaire, est-ce que vous constatez, là, depuis la suppression de certaines niches fiscales, par exemple, je pense au Pinel, bon, il y a le Pinel Plus, mais qui marche pas du tout, le PTZ qui a été remodelé, est-ce que vous constatez un désintérêt des Français, justement, pour cet investissement immobilier?
Oui, on le ressent, effectivement, notamment pour les études qui font beaucoup de promotions immobilières, les études urbaines, que ce soit à Paris, en métropole, et les métropoles françaises, beaucoup moins d'intérêt. On sent qu'il y a une dégradation du volume des ventes. Alors, indépendamment de la crise que nous traversons en ce moment, tous les régimes fiscaux qui ont existé par le passé avant le Pinel, dès qu'un régime devient moins intéressant, dès qu'un régime disparaît purement et simplement avant d'être remplacé, ça entraîne une diminution des ventes. C'est malheureux, mais c'est la vérité. La carotte fiscale, c'était quelque chose qui permettait de vendre aussi.
Rappelons que le dispositif Pinel a permis de vendre par an 60 000 appartements.
Ouais, c'est vrai.
C'était un dispositif exceptionnel. et qui a beaucoup plu, son succès. Ouais.
Alors, Pierre Autus, quand vous entendez ça, vous qui avez travaillé, hein, qui travaillait avec le CNH, donc le Conseil National de l'Habitat, sur justement ce fameux statut fiscal de l'investisseur, ce serait quoi les solutions pour redonner cet intérêt, pour inciter les Français, parce qu'on a besoin, vous l'avez dit, hein, des propriétaires bailleurs, la France en a besoin, le logement en a besoin pour faire face à cette crise. Sur quoi vous travaillez ?
Alors, le statut du bailleur privé, de l'investissement privé, l'amortissement, etc., en fait, il faut le mettre à la fois au service d'une politique publique, qui est le développement de l'offre locative et donc de l'accès au logement pour tous les Français, et puis au service aussi de la décarbonation, qui est un enjeu colossal, qui nous est imposé, ou en tout cas qui est décidé à des échelles supranationales, puisque c'est le droit européen, les directives européennes édictées par les pays en question qui nous l'insuffle, qui nous incite à le faire. Alors chacun prend sa méthode. Mais donc, les travaux qu'on a menés au CNH ont aussi permis de déterminer un outil qui peut se mettre au service d'eux. Et un outil qui est à la fois le droit commun, qui n'est pas perméable à de multiples niches, mais aussi, sur option, de pouvoir inciter les propriétaires et les investisseurs, qui sont des particuliers, qui effectivement prévoient l'avenir, leur retraite, des compléments de revenus. Oui. Ils anticipent aussi une transmission, parce que l'immobilier est un bon outil de transmission. C'est un outil qui a un formidable levier, qui est l'emprunt, hein, pour capitaliser aussi. C'est populaire, accessible pour tous. Et donc ces particuliers, avec leur agilité, avec leur facilité de modulation, sont un formidable levier pour développer l'offre locative, dont on a terriblement besoin en ce moment, parce qu'il y a une crise, et puis aussi d'accompagner cela avec une décarbonation. Et donc ça, ça rentre dans un système qu'on appelle le statut du bailleur privé, mais qu'en fait est un amortissement comptable qu'un certain nombre d'investisseurs font déjà. C'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est quelque chose qui existe, qu'il faut peut-être peaufiner ici et là, qui a certes un coût, mais on pourrait faire des économies par ailleurs sur d'autres postes de dépenses liés au logement, mais qui est un bon levier à notre sens.
Alors j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit Olivier Principal, donc le président de la FNAIM Grand Paris, en ouverture. Il a demandé à repousser le calendrier justement d'interdiction à la location du fameux DPE. Et est-ce qu'on peut dire, alors là je m'adresse à vous quatre, hein, messieurs, que justement cette rénovation énergétique, plus globalement cette transition écologique arrive au mauvais moment et il faudrait peut-être penser à la décaler?
Si je peux intervenir tout de suite, il n'y a jamais de bon moment ou de mauvais moment pour mener une politique publique. Il n'y a que des moyens à donner et à mettre en œuvre pour y arriver. Aujourd'hui, on a un enjeu lié à la décarbonation, ce que je disais, qui est plus large que la simple rénovation énergétique des logements. Mais on a aussi un enjeu d'accès au logement et d'offres. Et donc, on a pris des décisions collectives, en tout cas majoritaires, de dire on va interdire la mise en location d'un certain nombre de logements, on va dire, qui sont insalubres. Indécent, pardon.
Ouais. Bon,
déjà, la terminologie,
qu'est-ce qu'un
logement indécent? Ma grand-mère vit dans un logement indécent, je ne suis pas sûr. Voilà, sa maison est ancienne, elle est au fioul, elle est dans la campagne. Voilà.
Et après, il y a le problème du calcul de la note aussi, via l'algorithme.
Le danger de mener des interdictions de mise en location comme ça pour influencer les marchés et l'accès d'un certain nombre de logements, c'est qu'on fait disparaître de l'offre. Et donc, on va à l'encontre de l'offre. Et puis en plus, il y a d'autres systèmes d'investissement qui servent notamment le tourisme, même plein d'autres, qui ne sont pas soumis à ces obligations.
Ça, c'est un autre problème.
Et puis dans les copropriétés, pour revenir sur des débats qu'on a eus au Sénat récemment, dans les copropriétés, il y a les propriétaires bailleurs et il y a les propriétaires occupants qui ne sont pas encore sous le même pied d'égalité dans leurs obligations, et c'est bien normal.
Parce que pour l'instant, les propriétaires occupants ne sont pas touchés par...
Et puis le système de l'indécence serait quand même un peu saugrenu, parce que les gens sont dans leur logement, ils en sont propriétaires. On ne va pas juste leur dire vous êtes dans un logement indécent, débrouillez-vous.
Messieurs, peut-être une petite réaction?
Moi, je pense que quand on a un arbitrage à faire aujourd'hui, c'est plus possible de faire l'arbitrage au détriment de la décarbonation.
Donc, pourtant, c'est ce que les bailleurs sociaux, par exemple, hein, Action Logement, l'a clairement dit, il va y avoir des arbitrages.
Je sais, mais je vous donne mon point de vue. Ensuite, c'est les moyens qu'on donne, en effet, pour cette politique publique. Puis, il peut y avoir des éléments de rectification. Je crois que le gouvernement en a fait par rapport aux petites surfaces. Parce qu'en effet, il y avait un principe qui était mal calé, puisque ça donnait un DPE très défavorable de manière injuste. Donc, il faut pouvoir être pragmatique sur ce genre de cas. Mais de manière générale, moi, en tout cas, je pense comme parlementaire que les arbitrages ne doivent pas se faire au détriment d'une urgence de décarbonation. Mais il faut redonner des moyens au logement. Enfin, c'est aussi la plus grosse crise sociale que traverse notre pays aujourd'hui.
Donc les moyens au logement, c'est quoi ? C'est donc des aides à travers des niches fiscales, c'est ça ?
Et aussi des aides à la transition énergétique. Moi, enfin, je sais le côté très onéreux et qui peut être considéré comme injuste. Moi, je
en période d'inflation. Hein.
Sur la niche Pinel. Dispositif Pinel. Mais enfin, le supprimer comme ça, sans le remplacer par rien, par une nouvelle proposition, c'est inédit. Et à mon avis, ça n'est pas raisonnable dans cette période de très grave crise du logement. Donc oui, on aurait aussi pu le prolonger un peu plus longtemps. En tout cas, je pense que ça n'est pas au détriment de la transition énergétique qu'il faut faire les arbitrages. Ça, j'en suis absolument persuadé. Quitte à mettre des moyens supplémentaires, il faut faire cela avant d'être pragmatique. Il ne faut pas inverser les choses et reculer toujours l'horizon de la transition énergétique dans notre pays.
Oui, mais alors ces moyens supplémentaires, ils viennent d'où ? Parce que le ministre des Finances l'a dit, il n'y a plus de sous.
Mais ça, c'est les contraintes qu'il a lui-même aussi créées avec sa politique. Il faut aussi faire des choix. Bien sûr qu'il y a aussi de l'argent dans notre pays, il y a aussi des recettes fiscales nouvelles qui pourraient être décidées, ça c'est un choix politique. Et dans les dépenses qui sont faites aujourd'hui, je le disais pour la priorité écologique, mais il y a aussi des priorités sociales. La principale priorité sociale d'aujourd'hui, elle doit être sur le logement. Je crois que l'ensemble des professionnels de l'immobilier le disent eux-mêmes par rapport à un secteur d'activité économique. Mais enfin, la difficulté d'accès au logement, c'est une spécificité française dans son ampleur. Et elle tient à beaucoup de facteurs, mais on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester aujourd'hui avec autant de sans-abri et une classe moyenne qui n'arrive pas à se loger et des jeunes qui n'arrivent pas à s'installer dans un logement indépendant.
Les étudiants qui renoncent à leurs études.
Ouais, c'est aussi un grave problème même pour le développement économique de notre pays. Quand je vois comme élu parisien le nombre de sollicitations que je reçois parce que des hommes, des femmes ont trouvé un travail à Paris mais n'y trouvent pas de logement, donc doivent y renoncer, c'est aussi un problème pour l'attractivité économique et la croissance dans notre pays. Donc ça doit engager tout le monde. Et s'il y a des choix budgétaires à faire, le logement a été le grand sacrifié depuis 2017 d'un point de vue budgétaire. Il faut revenir en arrière.
C'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que le logement, la crise du logement impacte le marché du travail. Benjamin, vous vouliez réagir.
Et pour continuer, ce que nous allons vivre va être inédit. Aujourd'hui, nous, professionnels de l'immobilier, nous n'avons plus rien à louer. Évidemment, crise de la transaction, donc plus de congés, plus d'appartements à louer. Les gens ne trouvent plus de logement. Il va falloir apporter des solutions et des solutions rapides. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à répondre à la demande. C'est un problème de fond. Parlons une seconde des investisseurs. De 90 à 2000, les institutionnels avaient investi 10% du parc d'habitation. D'accord ? Ils étaient investis à 10%. Aujourd'hui, ils sont investis à 1%. Aujourd'hui, ce que représente en 2022... les investisseurs, que ce soit institutionnels ou privés, ça représentait 200 000 ventes sur 1,3 million. Cette année, on attend entre 60 et 70 000 ventes d'appartements sur 820 000 qu'on devrait avoir cette année. Mais ça se réduit comme peau de chagrin. On ne va plus avoir d'investisseurs, donc plus d'appartements. Donc on ne pourra plus répondre à la demande des clients pour la location de leurs appartements. Mmh. Ça va être un vrai problème. Mmh. Et là, on va vous dire, ah oui, mais on a trop donné d'argent, donc on n'a plus d'argent, donc on n'a plus de solution, donc en fait, débrouillez-vous. Mais non, mais ce n'est pas nous qui allons nous débrouiller. Nous, aujourd'hui, on aura alerté, on aura prévenu. Effectivement, comme monsieur le sénateur disait, mais trouver des solutions et surtout trouver des fonds. Et on ne peut pas faire... la solution ne peut pas toujours être le social. Moi, les HLM, je veux bien, mais ce n'est pas la solution pour loger tous les Français. Une société qui fonctionne correctement n'est pas une société qui loue que dans des HLM. Je suis désolé de le dire, ça déplaît, ça fait pas plaisir, mais c'est une réalité. Voilà.
Maître Grimont, vous aussi, les notaires, vous avez fait des propositions au gouvernement.
Oui, tout à fait, à l'occasion du dernier congrès des notaires qui s'est tenu en septembre dernier à Deauville. Après la présentation du rapport, un certain nombre de propositions ont été faites qui tournaient
Un peu autour de celle des syndicats d'ailleurs.
Tout à fait, la plupart des représentants des différentes activités immobilières, notamment le statut du bailleur privé dont on a eu l'occasion de discuter, une simplification fiscale tout simplement, pour que les Français s'y retrouvent, je dirais, plus facilement et pour la durée, toujours cette question de pérennité à l'avenir,
ouais.
Et inciter également sur d'autres sujets, d'autres propositions, les Français à pouvoir faire des donations, par exemple, qui seraient défiscalisées au-delà de ce qui existe aujourd'hui, à la condition que ces fonds servent, par exemple, à la rénovation énergétique d'un bien immobilier. Les Français, s'ils n'ont pas un avantage, certains, de toute façon, ne donneront pas. Alors, autant les pousser à donner quelque chose qui resterait plutôt sur leur compte, à la condition que ça serve la collectivité et la rénovation des logements sert la collectivité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, on loue de moins en moins, ça devient de plus en plus difficile. Moi, je suis installé à Lille. Le parc locatif est un vrai problème.
Vous, c'est ce que vous constatez aussi.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Juste pour vous donner un exemple concret du terrain. Nous, on est dans un immeuble au 5e étage. Les locataires ne trouvent tellement pas de logement qu'ils viennent jusqu'à notre bureau, alors même qu'ils ont déjà rendez-vous. Ils viennent nous voir, ils viennent nous déposer leur dossier, limite en nous suppliant de les prendre. Mais c'est pas un marché serein. Et sincèrement, on nous fait avoir un rôle qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que quand on doit dire non, c'est-à-dire on met des Parisiens limite dans la rue. Alors, on ne les met pas dans la rue, on ne leur donne pas accès au logement. Mais ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut louer qu'une fois. Pour une annonce mise, c'est 600 demandes. Hein.
Ouais, bien sûr.
Une annonce mise, c'est 600 demandes. Ça veut dire qu'on fait 599 déçus.
C'est vrai que les chiffres du rapport de la Fondation Abbé Pierre sont dramatiques et assez alarmants. Donc pour résumer, plus de moyens, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, des niches fiscales aussi, le statut du bailleur privé qu'on attend. D'ailleurs, on a peut-être une idée sur quand... ça fait longtemps qu'on l'attend.
Pour le moment, dans les oreilles de Bercy, c'est plus une manière de faire des économies budgétaires plutôt que de relancer l'offre de logement.
Donc, ouais.
On est assez prudent sur le statut du bailleur privé tel qu'il va être appréhendé par l'administration et le ministre de l'économie. Oui.
Et là, les prochaines étapes de votre groupe de travail, du coup, c'est quoi ?
Alors, le rapport a été finalisé, si je ne dis pas de bêtises.
Oui,
il a été remis à son président, au président du CNH, Lionel Causse. Et puis, il a été présenté, ou il va être présenté dans les prochaines semaines au ministre Kasbarian. Alors, comme ça a changé de ministre,
oui.
Il y a eu deux présentations du rapport.
C'est vrai que ça avait été remis une première fois à Patrice Vergrit, je crois,
juste avant qu'il change de ministère.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, et merci pour vos témoignages, pour votre participation pour ce sujet si important. On se retrouve tout de suite sur Radio Immo.
Le 11e forum FNAIM UNIS Grand Paris, le 21 mars 2024, au Cézé, en partenariat avec Drieux Combaluzier et Axéo sur Radio Immo.